La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. La France bouge même pendant Noël. Pendant une heure, nous allons découvrir des talents français qui mettent en œuvre leurs idées dans les villes, dans les associations et qui se retroussent les manches, oui, même en ce moment. Ça s'appelle La France bouge. Et à mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à toutes et tous. 24 décembre rime peut-être pour vous avec belle table, occasion de sortir nos belles assiettes, nos beaux verres. La France est à la pointe dans ce secteur d'excellence. Et notre grand témoin va tout nous dire, c'est la patronne de Guy de Graine.
À la une, en effet, les arts de la table. Pourquoi ne pas utiliser les algues, les coquilles d'huîtres ou les arêtes de poisson pour créer de la vaisselle? C'est ce que fait la start-up Ostraco et sa fondatrice nous dira comment.
C'est l'un des plus grands noms de Limoges. Bernardo, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Une marque mythique qui ne cesse d'innover. Et ce sera notre saga du jour aux alentours de 13h30.
Chaque jour dans La France bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Aujourd'hui, avec notre partenaire CCI France, nous avons retenu arithmétique avec un Q à la fin. Une solution pour faire soi-même son propre shampoing. Rendez-vous 13h45.
Et puis en fin d'émission, on retrouve Benoît Serre, le vice-président de l'association des DRH. Après une telle année, gros plan sur les bureaux. Comment vont-ils se transformer? Comment la vie de bureau va-t-elle se réinventer?
Et c'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1 jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Allez oui, elle bouge en ce 24 décembre. On est une fois de plus très heureux avec Elisabeth de vous accueillir plus que jamais, j'ai envie de dire, autour de la table de La France bouge, et nous aussi. Allez, on sort les assiettes, on sort les verres, on se prépare pour ce réveillon de Noël avec notre grande patronne du jour.
Bonjour Géraldine Autier-Faillon.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de Guy de Graine. Alors on va revenir un petit peu en arrière. C'est en 1948 que Guy de Graine, descendant de forgerons et tameurs, reprend la forge paternelle. C'est ce que raconte la légende. Il a très vite compris que les ménages avaient besoin de s'équiper. Il veut alors démocratiser les couverts et plus largement l'art de la table. Guy de Graine, aujourd'hui, c'est 650 salariés, dont 450 en France. On est le 24 décembre. Ceux qui fêtent Noël, là, sont en train de se préparer. Géraldine Autier-Faillon, c'est souvent l'occasion de dresser une belle table. Est-ce que ça a été le cas dans vos ventes cette année?
Alors, oui, on est très content parce que vraiment, après cette année si compliquée, si particulière pour nous tous, le rendez-vous que nous avons eu avec nos clients dans nos boutiques, dès que ça a été possible, a été vraiment un rendez-vous de retrouvailles. Donc vraiment, beaucoup d'engouement pour les produits, une véritable volonté de cuisiner pour ses proches, de se retrouver même en petit comité, mais de faire ça bien.
Voilà. Alors justement, on le voit depuis des semaines à La France bouge, les Français ont repensé les intérieurs. Ils ont changé de cuisine, ils ont changé de canapé, ils ont même repensé les jardins pendant ces confinements. Tous les patrons et patronnes qui sont venus ces dernières semaines nous l'ont confirmé. Est-ce qu'ils ont repensé les tables? Est-ce qu'ils se sont dit aussi, allez, quitte à être que 6, on change la vaisselle et on fait un gros coup de balai aussi pour se faire plaisir?
Alors, on a vu plusieurs vagues de clients arriver. Après le premier confinement, ils sont arrivés, ils ont regardé beaucoup de vidéos et ils ont appris à faire de la cuisine. Donc, on a eu une première vague de clients qui a découvert comment on faisait de la mousse au chocolat. Oui, mais la mousse au chocolat, il faut la mettre dans quelque chose.
Un
saladier ou des petites cocottes de façon individuelle. Et ils ont vu des tas d'émissions super sympas avec des grands cuisiniers. Et ils sont venus chercher ces produits dans nos boutiques. Donc, nous, on a eu plaisir à partager ça avec eux. Ensuite, il y a eu aussi de la casse pendant le confinement un petit peu.
Ah bah oui, c'est tout bête, on est à la maison, on s'en sert plus.
Voilà, on est à la maison, on s'en sert plus, on fait des bêtises, on se dispute peut-être même aussi.
Quand même.
On se rend compte aussi qu'on est peut-être un peu lassé par son intérieur, on a envie de nouveautés, on a envie de quelque chose d'un petit peu plus dans l'air du temps. Et puis là, maintenant, c'est l'esprit des fêtes. Comment avoir une table qui reflète les valeurs que l'on a envie de porter?
Est-ce que, du coup, ces confinements vous ont fait changer un petit peu votre façon de proposer les produits? Parce que je crois que vous avez sorti, comme c'était prévu, les nouveautés, parce que vous avez dit, il faut y aller. C'est pas parce qu'il y a eu des confinements, c'est pas parce qu'on a été fermé qu'on doit pas proposer ce qui a été imaginé.
Tout à fait. On a choisi de garder notre programme d'innovation, de nouveautés. Mais peut-être qu'il y a eu un biais un petit peu différent dans la façon dont on l'a proposé à nos clients. Je parlais de ces petits contenants plus individuels. On sent qu'il y a une véritable demande, associée sûrement aussi à la crainte sanitaire. On a peut-être moins envie de grands plats à partager. Donc on avait cette offre-là, il a fallu l'expliquer aux clients.
Donc ça, c'était intéressant. Vous l'avez développée, cette offre ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les nouveautés, dans ce que vous proposez, il y a beaucoup plus d'offres de portions individuelles ?
Nous avions des choses, mais nous avons renforcé cet aspect-là.
C'est-à-dire ?
Avec, par exemple, je parlais des cocottes tout à l'heure. Nous,
c'est-à-dire, par exemple, pour suivre la question d'Elisabeth, vous en avez produit plus ? Vous en avez envoyé plus en magasin ?
Aujourd'hui, on est obligé de réagir, clairement. On se rend bien compte que ces produits-là sont une demande beaucoup plus forte qu'elle ne l'était par un moment.
Alors, quel genre de faites-nous rêver, qu'est-ce que vous avez inventé, là ?
Alors, inventer, c'est un bien grand mot. Hein. On ne fait pas non plus de crève-cœur-poumon, on reste humble. Voilà, ce sont des arts de la table. Mais il y a des choses, je vais vous donner un exemple. On a fait un partenariat avec une petite société du nord de la France qui fait de l'upcycling, qui fait des verres à partir de bouteilles de vin recyclées chez des restaurateurs. Nous, ça nous a vraiment enthousiasmé, cette idée-là. On vend des verres, nous ne sommes pas verriers. Mais se dire qu'on pouvait vendre des verres, les rendre beaux à partir d'un produit qui avait déjà eu une première vie, et puis pouvoir s'inviter chez les gens, c'est quelque chose vraiment qui nous a bien motivés.
Et alors, donc, terminer les grands plats partagés, ça veut dire que les assiettes sont, je sais pas, les saladiers sont plus petits, les plats ont rétréci. Comment on s'organise en ce moment ?
Par exemple, on va portionner toujours notre mousse au chocolat. Au lieu de la faire refroidir dans un grand saladier, on va la préparer dans des petits pots individuels, y compris avec des couleurs différentes, des couvercles différents. On se rend compte aussi qu'on est beaucoup plus sensible à ces problématiques-là. Et donc aujourd'hui, ben nous, on vient avec une gamme d'une dizaine de couleurs de ces petits contenants. Et donc, voilà, si on a Tante Agathe qui est allergique au homard, on peut l'identifier très facilement.
Oh bah, Tante Agathe, on l'invite plus souvent parce que comme ça, il nous en reste tous plus de homard pour les autres.
Ça.
Ce qui est important, c'est que le secteur de l'art de la table avait été sacrifié ces dernières années, notamment à cause de la fin des listes de mariage qui était le fonds de commerce du secteur de l'art de la table. Ce qu'on entend, c'est que grâce aux émissions de télé, il y a déjà 2-3 ans, ça avait permis de repartir. Et là, d'une certaine manière, les confinements et le fait qu'on imagine peut-être qu'on va plus être à la maison, ça a donné, comment je pourrais dire, un petit coup de boost à votre secteur ?
Aujourd'hui, on le sent. Il y a une vraie attractivité pour les arts de la table. Alors, différemment, on ne vit plus ça comme un service.
Oui, c'est plus le service, justement, de la liste de mariage.
Vraiment, pour les très grandes occasions. On vit ça de façon différente. Déjà, on a des moments de convivialité, ça peut être le thé, ça peut être le goûter, on ne s'invite plus non plus pour les mêmes occasions. Ce n'est pas simplement le grand repas très posé. On mélange beaucoup de choses.
On peut avoir des assiettes et des assiettes creuses différentes, par exemple.
On peut avoir un service de famille avec des pièces peut-être plus récentes. On fait des associations de couleurs qui sont un peu différentes. On ne mange pas forcément, je vous dis, avec un service à la française très posé. On peut faire des choses très belles. On se sert d'un saladier pour mettre des fleurs. Voilà, on se découvre tous un peu décorateurs.
On reste à table ?
Avec vous, Géraldine
Autier-Faillon, la directrice générale de Guy de Graines. Vous êtes notre grand témoin du jour.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bon, c'est surtout une France assise, il faut bien le reconnaître aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de préparer la table du réveillon en ce 24 décembre avec notre grand témoin du jour, Géraldine Autier-Faillon, qui est la directrice générale de Guy de Graines, l'une des principales marques, en tout cas l'une des plus connues de cet univers de l'art de la table.
Oui, Emmanuel, et pourquoi ne pas utiliser de la vaisselle à base de déchets de la mer ? Est-ce que vous connaissez
ça ? Non, très franchement, si on n'avait pas dû faire cette émission, je n'en aurais jamais entendu parler.
Eh bien pourtant, c'est ce que nous propose la start-up Ostraco. Bonjour Lucille Vio.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1. Vous avez fait, vous, l'école Boulle, qui est une école de design. Vous avez d'ailleurs fait une formation en design d'objets. Et vous avez décidé, en 2014, d'utiliser des déchets de la mer pour créer des objets. C'est-à-dire que votre entreprise, elle démarre, elle part de vos études. Pourquoi les produits marins ?
Les produits marins, enfin plutôt la Bretagne en fait, qui a été vraiment le point de départ et une démarche effectivement à l'école Boulle où j'avais envie de partir des ressources qu'on délaisse, donc les déchets d'une filière, en l'occurrence celle de la mer, pour créer mes propres matériaux parce que j'avais un fort attache à la Bretagne. Donc c'est parti vraiment de la question de la valorisation de ces ressources marines.
À quoi ça ressemble ? Parce que c'est vrai quand Elisabeth dit utiliser des coquilles, utiliser ce genre de choses, on se dit waouh, que ça doit être moche ou ça doit pas ressembler.
C'est hyper joli,
mais
c'est magnifique.
On est allé sur votre site et c'est magnifique, mais À quoi ça ressemble en tant que tel ?
Bah, ça ressemble à tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire que les déchets, notamment de la filière de la mer, tout le monde les connaît, des arêtes, des carapaces de crustacés, des coquilles, des algues, voilà, c'est des peaux de poisson. C'est tout ce qu'on ne consomme pas quand on mange des produits marins. Donc, vous les connaissez tous.
Mais comment
tous,
ça se transforme après, en verre ? Comment ça se transforme en quelque chose qui ressemble à un verre magnifique ?
Et ben tout le travail, c'est justement de les sublimer en passant par une étape qui est toute bête, qui est celle de la transformation en poudre et du broyage. Donc une fois que ces matières sont réduites en une poudre qui est elle magnifique, et ben je les mélange entre elles, je fais un peu de la cuisine et je fabrique mes propres verres.
Mais est-ce qu'il y a une spécificité, j'ai envie de dire, pour chaque déchet, c'est-à-dire est-ce Bien qu'avec sûr. Les carapaces de crustacés, on fabrique davantage des
Alors, effectivement, ce qu'on observe, et c'est ce terme de géoverrerie que j'essaye de développer, en fait, c'est le lien entre le paysage d'origine des matières premières que j'utilise et les résultats obtenus. Et en fait, je me rends compte au fil des années qu'en utilisant telle ou telle espèce de coquillage, le résultat, il n'est jamais deux fois pareil, en fait. Donc, il y a un réel impact en fonction de la saison, de l'espèce et puis du milieu dans lequel elle a évolué. Évoluer sur la, notamment la couleur du verre que j'obtiens.
Et donc ça en fait des pièces quasiment uniques. Si on veut avoir les 6 verres de la même couleur, on a intérêt de les acheter quasiment en même temps quand même, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir du réassort.
Alors on est sûr d'avoir du réassort parce que ces verres que je... Voilà, ces verres que je crée, ils sont recyclables à l'infini. D'ailleurs, il y a tout un système de consignes qui est mis en place au niveau de la marque Ostraco. Mais c'est vrai que c'est un peu comme faire du vin chaque année ou de la teinture. Chaque année, le verre, il est un petit peu différent. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir une couleur stable sur la durée, quoi.
Alors, en revanche, il faut le dire quand même à nos auditeurs, hein, ça coûte un peu cher. C'est-à-dire que typiquement, moi, j'aimais beaucoup un de vos verres qui s'appelle le Marin Glace. 42 euros le verre.
Ouais, le gobelet.
Voilà.
Bah en fait ça coûte le prix réel. Donc c'est ce que j'essaye aussi de défendre, c'est-à-dire le travail de la main au-delà du travail de la matière. Donc tout est soufflé à la canne par Stéphane Rivoile et son équipe qui sont à Arcueil en région parisienne. Donc il y a un temps qui est absolument incompressible derrière chaque pièce et ça explique effectivement le coût des collections qui peut paraître élevé si on compare à des grands et à des géants qui font produire dans d'autres pays. Mais le vrai coût de la main et de l'artisanat d'art en France aujourd'hui, c'est celui-là et on est vraiment dans les prix du marché.
Vous avez raison de le préciser, Lucille Villot, parce que vous travaillez avec des artisans français qui soufflent chaque pièce. Ça veut dire que vous faites travailler aussi nos plus belles mains.
Et oui, et puis on a en plus à l'atelier Silicibine, il y a un savoir-faire qui est tout particulier, qui est celui du soufflage à la cuisse. Donc ils ont une technique très spécifique de soufflage, notamment pour ces gobelets dont on parle. Donc c'est quasiment les seuls en France à travailler comme ça. Ils ont un savoir-faire qui est exceptionnel. Aujourd'hui, si vous cherchez un gobelet pour votre table avec un verre dont vous êtes capable de connaître la provenance, la date de fabrication, la quantité et de connaître l'artisan qu'il y a derrière, accrochez-vous.
Qui sont vos clients ? Qui achète aujourd'hui vos produits Ostraco ?
Excellente question. En fait, il y a un très très fort lien au territoire, forcément, puisque moi je pars d'une région pour fabriquer à chaque fois une recette de verre emblématique de cette région. Donc les clients, c'est des personnes qui sont attachées à ces paysages, à ces territoires.
Quelle région ?
Le verre breton, je vais pas le vendre en Lorraine. Le verre aveyronnais, je vais pas le vendre en Bretagne. Donc les deux verres là qui sont en production aujourd'hui, c'est le verre de Rouergue, qui est un verre que j'ai formulé en 2019 à partir de coquilles d'escargot, cette fois cendres de bois de chauffage et sable des berges du Lot. Donc il se vend forcément dans l'Aveyron et même réflexion pour le verre Marin Glace en Bretagne.
C'est vraiment formidable hein, ce que vous
ça
faites.
Ça nous donne envie. Hein.
Effectivement, en plus c'est vraiment très très beau. Hein. Je vous invite à aller regarder le site internet d'Ostraco. Géraldine Nautier-Faillon, vous êtes notre grand témoin. Je rappelle que vous êtes la patronne de Guy de Graine. Vous aussi, vous produisez principalement en France. Vous avez 3 sites de production à Limoges, bien évidemment, à Maison-Mère de la Porcelaine, à Vire, je crois, en Normandie, mais également en Hongrie. C'est capital de produire également au plus près de nos territoires.
C'est un véritable engagement. C'est une réalité aussi économique très ancrée. Nos clients sont aussi français, donc il y a une véritable osmose, je pense, dans le fait d'être prêt. Je veux vraiment dire toute mon admiration pour ce que fait Ostraco, c'est magnifique, et vous avez sûrement gagné une cliente lorraine pour des verres marins. voilà, c'est vraiment très beau ce que vous faites.
Lucilvio, la suite c'est quoi? Vous êtes en train de développer des verres pour d'autres régions?
Je suis lorraine d'origine, donc je rigole. Je suis née à Pont-à-Mousson, donc je suis en train de préparer un verre de la vallée de la Moselle précisément à partir d'autres types de ressources qui sont issues de l'industrie lorraine. Il y aura bientôt des informations là-dessus. Et notamment un verre des îles du Ponant auquel je tiens tout particulièrement, qui là n'est plus tout à fait un verre breton parce qu'on réunit trois régions dans les îles du Ponant, notamment Ouessant, Belle-Île-en-Mer, Bréhat et les autres. Et donc là, c'est l'idée de faire un verre inter-île et inter-île. Que chacune de ces... Voilà, que chacun de ces micro-territoires puisse être représenté et participer à la création de ce verre des îles du Ponant qui est porté par l'association des savoir-faire des îles du Ponant, et on va démarrer l'année prochaine.
Lucilvio, on vous trouve essentiellement sur votre site internet si on a envie de s'offrir un joli verre là pour cette fin d'année.
Oui, alors effectivement la boutique en ligne a émergé là cette année.
Ça doit bien marcher.
Gros travail sur... Honnêtement, c'est difficile, mais en tout cas, on a beaucoup travaillé dessus cette année, donc je vous invite à aller voir tout ça.
Mais voilà. Je rappelle, l'adresse de votre site, c'est atelierlucilvio.com. Merci à vous, hein, vous nous avez fait rêver, Lucilvio, hein, fondatrice de la start-up Ostraco. Merci à vous.
Et Géraldine Autier-Faillon, directrice générale de Guy de Graine, vous êtes notre grand témoin et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge en ce 24 décembre. On continue de préparer nos tables de réveillon pour ceux qui fêtent bien évidemment Noël. Géraldine Autier-Faillon, vous êtes la directrice générale de Grille de Graines et vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h. Je vous ai entendu l'autre jour dire c'est bien d'être locavore, hein, donc de consommer ce qui est produit à côté de chez nous, mais ça ne sert à rien si on mange tout ça dans une assiette qui est produite très très loin de chez nous. Vous voulez aussi éduquer au fait que ça passe aussi par l'assiette, par ce qui sert à mettre à l'intérieur les produits pour...
Oui, vous avez complètement raison. En fait, je pense qu'en fait, nous avons besoin de davantage de cohérence dans nos vies, et je pense que l'époque actuelle nous y invite. Donc, se dire tout d'un coup être locavore et vouloir manger des produits qui viennent de moins de 10 km, c'est essentiel. Et ça nous fait du bien à notre corps et ça fait du bien à la planète. Maintenant, si nous sommes approvisionnés en couverts, en assiettes, de produits qui viennent peut-être de très loin, qui sont produits dans des conditions peut-être sociales légèrement différentes de celles auxquelles on croit, eh bien, on n'est pas cohérent.
Et vous avez raison de le dire, parce qu'on parle souvent de ces problématiques autour des vêtements, mais c'est vrai qu'il fallait y penser autour de la vaisselle, des arts de la table. Il faut aussi regarder comment et où c'est fabriqué pour pouvoir être en accord avec ces convictions.
Il y a des problématiques de bilan carbone, il y a des problématiques sociales, comme je vous le disais. Et donc voilà, on estime que c'est notre devoir.
Après, ce qui est très compliqué, c'est que quand on veut avoir une belle vaisselle, c'est le cas chez Guy de Graines, ça va être le cas chez Bernardo qui va être notre invité dans un instant, c'est un énorme budget. C'est-à-dire que ça coûte très cher. Du coup, est-ce qu'il faut imaginer peut-être des marques françaises qui seraient plus abordables? Est-ce que vous y réfléchissez, par exemple, chez Guy de Graines, avoir une entrée de gamme, made in France, mais qui soit plus abordable, peut-être pour nous apprendre aussi à ce qu'est la belle porcelaine made in France?
Alors, vous avez raison, c'est toujours un équilibre délicat. Nous parlions tout à l'heure du travail de l'homme et de sa juste rémunération. Nous sommes une entreprise du patrimoine vivant, avec des sites à Vire, des sites à Limoges, la haute porcelaine de Limoges. Effectivement, on sait tous qu'a priori, c'est plutôt un budget. Notre positionnement chez De Graines, il est premium. Ça veut dire que nous ne touchons pas l'univers du luxe par volonté. Vous le disiez au tout départ, De Graines, voilà, on est tous un peu connectés à cette histoire-là. On se rappelle de la pub, c'est quelque chose.
J'ai partie de la famille. Hein,
voilà, exactement. On est autour de la table de famille, et donc c'est toujours aussi une réflexion de se dire est-ce que nous sommes à un prix qui n'est pas une barrière. Effectivement, c'est un objet valorisé, valorisant, mais est-ce que nous restons accessibles? Donc c'est une problématique constante. Ça passe aussi au niveau industriel par des investissements, ça passe aussi par du soutien, de l'engagement aussi des territoires, des politiques. Ça ne se fera pas simplement par une pure volonté.
Alors Géraldine Autier-Fayon, ce qui reste très compliqué en ce moment, il faut quand même aussi en parler, c'est l'hôtellerie-restauration. Les hôtels ont connu d'énormes difficultés cette année. Les restaurants, n'en parlons pas, ils sont toujours fermés. Et pourtant, ils représentent un tiers de votre chiffre d'affaires. Est-ce que finalement, 2021, comment est-ce que vous allez la projeter? Comment est-ce que vous l'envisagez, 2021?
Alors, vous avez raison, nous sommes un petit peu en terrain inconnu. Hein. Nous avons dû nous adapter en 2020, accompagner cette clientèle qui souffre en France, mais qui souffre à l'international. Et ça va très loin. C'est l'hôtellerie-restauration telle qu'on la connaît classiquement, mais c'est tout le secteur du tourisme. Hein. Ce sont les croisiéristes, ce sont les compagnies d'aviation, c'est le monde de la beauté. Enfin, voilà, c'est tout un écosystème qui souffre. Donc, on est un petit peu, on navigue un petit peu à vue, mais on choisit quand même d'accompagner cette clientèle dont on est très proche. Mmh. On est très proche parce que ce sont les clients les plus exigeants.
Est-ce que c'est un peu votre Formule 1 à vous, si on doit comparer par rapport à un constructeur automobile? Autrement dit, ça vous permet d'innover pour la restauration et pour l'hôtellerie et derrière de décliner ça pour le grand public?
Alors, ils sont effectivement très exigeants. Donc, ils nous aident, ils nous poussent à aller de l'avant. Maintenant, ils ont aussi un usage qui est très intensif. Donc, en termes de qualité, c'est aussi une très bonne boussole. Mmh. Et puis, ça nous donne aussi d'être complètement aux aguets des nouvelles tendances de marché. Parlons par exemple de la vente à emporter. Je pense que c'est une tendance de fond qui était à la base une tendance opportuniste. Et nous avons choisi d'accompagner cette tendance.
Comment?
Alors, je vais vous donner un exemple. C'est tout frais. Nous avons certains produits qui sont issus de notre filière de production, qui peuvent avoir un petit défaut très minime, très visuel, et qui peuvent complètement accompagner la vente à emporter. Moi, quand je commande à emporter et que je vois tous ces emballages qui finissent en déchets, c'est quelque chose qui me perturbe.
Et puis ça donne
envie
de manger. Hein.
On parle de cohérence. Et donc, se dire on peut manger dans une porcelaine que je lave, que je recycle, que je fais entrer dans un système de consignes, c'est quelque chose vraiment qui est très, très proche de nos valeurs et que nous souhaitons accompagner.
Et vous êtes en train de mettre en place
il y a une douzaine de restaurateurs qui testent ce système. On a déjà des retours très positifs. Donc on essaye.
Alors on le disait, hein, un tiers du chiffre d'affaires, vos magasins, les grands magasins, un tiers du chiffre d'affaires, l'hôtellerie, il en manque donc un tiers. Un tiers, c'est le culinaire notamment. Et avec votre partenariat avec le fabricant de Thermomix, hein, pour ceux qui ont un Thermomix, le bol, il est fabriqué par Guy Degrenne. Vorwerk, la maison mère de Thermomix, a pris 30% de votre capital. Ça vous permet d'accélérer dans ce secteur en croissance?
Alors aujourd'hui, c'est très fort ce partenariat, déjà parce que ça valorise un de nos savoir-faire qui est l'emboutissage profond de l'inox. Donc c'est une des pattes qu'a l'usine de Vire. Et puis forcément, le lien, il est évident. Voilà, il est le bien manger, le partage, aussi le circuit un petit peu plus court. Et ça nous pousse parce que Vorwerk, effectivement, est un partenaire exigeant. Ils vendent des milliers, des millions de Thermomix. Et donc, on est très fiers de soutenir leur développement.
Dans La France Bouge, chaque jour, nous découvrons une marque qui fait la fierté de notre industrie française, une marque qui a su traverser des générations comme la vôtre. Bonjour Michel Bernardo.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du directoire de Bernardo. Alors après le décès accidentel de votre père, vous avez pris la tête en 1994. Bernardo, tous les Français la connaissent, hein, et bien au-delà de nos frontières. C'est une des marques les plus emblématiques de la porcelaine en France. L'entreprise a été créée à Limoges en 1863 et vous êtes la cinquième génération à la tête de l'entreprise. Vous avez aujourd'hui deux sites de production en France, à Limoges bien entendu et à Oradour-sur-Glane. Bernardo, aujourd'hui, c'est 400 collaborateurs en France et à l'étranger, plus de 2 millions de pièces produites par an. Comment est né Bernardo? Comment on en arrive à ce que c'est aujourd'hui Bernardo?
C'est une question double, si vous voulez. Nous, on est né à l'époque du Second Empire, qui était l'âge d'or de l'industrie française. Et puis, on a réussi à passer à travers toutes des périodes difficiles et rester une entreprise familiale, toujours contrôlée par la famille. Vous avez souligné que j'étais la cinquième génération. Il y a déjà des éléments de la sixième génération qui sont à bord. Et c'est vrai que ça n'a jamais été facile parce que l'histoire de France a été perturbée. Trois guerres avec les Allemands, une grande crise en 1929, des hauts et des bas. Et bien finalement, on a été heureux de rester comme on est, puis de continuer à nous développer et à rester une entreprise d'une taille significative. Parce que c'est vrai, vous l'avez souligné, et c'est ma fierté, nous employons 400 personnes.
Qu'est-ce qui fait la force de Bernardo depuis le début?
Ben, je crois qu'on n'a jamais transigé avec l'ADN de la marque, c'est-à-dire la recherche de la qualité, aucun compromis avec la qualité, et essayer de maintenir toujours un lien très fort avec le monde de la création, pour savoir renouveler en permanence notre matériau, qui est un matériau ancien, mais qui permet en fait des tas de choses et des tas de combinaisons en jouant sur tous les sens, la couleur, le toucher, la forme. Il y a beaucoup de possibilités avec la porcelaine.
Alors, vous êtes une entreprise qui a toujours su innover. Le premier four tunnel a été construit à Limoges en 1949. Une technologie qui permet une cuisson en continu et qui améliore la qualité et augmente la production. On est en 1949 quand vous inventez ça.
Oui, alors, c'est vrai que maintenant, c'est désuet, si vous voulez. Il y a eu énormément de progrès techniques depuis. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'était surtout, il faut le présenter, c'était un investissement, c'était un pari très risqué. C'était un an de chiffre d'affaires qui était investi par la famille au sortir de la guerre. Donc vraiment, ça passait ou ça cassait. Et c'est passé, et c'est très heureux. Et depuis, on a essayé de rester toujours à la pointe des nouvelles technologies, parce que la technologie n'est pas et au contraire l'ennemi de la qualité et n'est pas au contraire l'ennemi de la créativité. Ça permet au contraire de la magnifier.
Et vous êtes une entreprise qui, justement, sur le point de la création, a aussi été très innovante. Très vite, vous êtes allé sur des coopérations avec des artistes et puis très vite, vous êtes même sorti de l'univers de la maison, puisqu'il y a eu des bagues Bernardo, il y a eu beaucoup de créations comme ça qui ont été imaginées par vos équipes.
Oui, alors, comme je vous l'ai dit, la porcelaine permet beaucoup de choses. D'abord, c'est un matériau qui est très sensuel, très agréable à porter, très agréable à toucher. Et puis, c'est un matériau qui permet de faire au-delà de la décoration de la table, de la décoration de la maison, voire des façades, voire des meubles. Donc, il y a énormément de possibilités. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous d'essayer de la réinventer tous les jours, au quotidien.
Et comment on continue d'innover dans ce secteur de l'art de la table? C'est quoi l'avenir, Michel Bernardo?
Je crois que j'espère que l'avenir, si vous voulez, se situe en France. Vous avez souligné que notre industrie a connu des périodes très difficiles sur le plan européen, parce que j'ai vu la plupart de mes confrères disparaître ou en tout cas changer de main. Quand j'ai démarré dans le métier, il y avait énormément d'entreprises familiales. Nous sommes pratiquement une des dernières sur le plan européen, en tout cas la dernière significative. Et il y a peut-être maintenant, avec ce qui vient de se passer, puis avec un mouvement qui était déjà amorcé, une prise de conscience qu'il ne faut pas aller à tout prix chercher la misère du tiers-monde, faire fabriquer des produits par des esclaves ou des enfants dans le fin fond d'un pays du sud-est asiatique, mais qu'aussi il y a de la noblesse à défendre l'industrie, le manufacturage en France, si je peux utiliser ce néologisme. Moi, je suis fier de dire que 100% de nos produits sont faits à Limoges. Et voilà, peut-être qu'il y a cette prise de conscience et puis que naturellement, ça a un prix. Ça a des prix raisonnables. Moi, je reviens sur ce que j'ai entendu. Je suis désolé.
Raisonnable, mais pas accessible par toutes les bourses quand même, Michel Bernardo. C'est magnifique ce que vous faites, mais...
Je suis pas d'accord, parce que si vous voulez, ça, vous savez, une belle assiette, nous on se situe sur le segment du luxe. Quand vous regardez, vous pouvez le comparer à des prix de DVD, qui sont des achats de tous les jours, ou quand vous prenez un billet de train...
Mais a priori, un DVD, on peut le regarder tout seul, et c'est plus compliqué si on n'a qu'une assiette,
oui,
quand même.
Non. Et une assiette, ça dure toute sa vie, si on veut, hein, ou ça peut se renouveler. Hein. Donc, si vous voulez, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce discours. Mais je pense que, de toute façon, on a tellement de satisfaction, si vous voulez, avoir une belle table dressée et à s'inscrire dans une tradition, quand même, qui est l'art de vivre à la française. Je rappelle que le repas français a été célébré, primé par l'UNESCO. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans nos gènes à tous.
En tout cas, ça nous fait toujours autant rêver, nous, en France, tout ce qui concerne Bernardo. Et merci à vous, Michel Bernardo, président du directeur de Bernardo, de nous avoir fait rêver encore quelques heures avant le réveillon
de Noël.
Mais
on rêvera bien après. Il y a plein d'occasions pour sortir de belles assiettes. Et on va continuer d'en parler avec Géraldine Autier-Faillon, la directrice générale de Guy de Grey. Gren.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge et c'est l'heure du pitch maintenant dans votre émission. On est toujours ensemble jusqu'à 14h avec notre grand témoin du jour, Géraldine Autier-Faillon, la directrice générale de Guy de Grenne.
Et tiens, on va aller se laver les cheveux maintenant, Emmanuel, si vous êtes d'accord.
Ils sont propres, mais je recommence.
Avec le fondateur d'Arithmétique. Bonjour, Maxime Laplancha.
Bonjour.
Merci d'avoir candidaté pour participer au trophée Europe 1 La France bouge. Vous avez 29 ans. Et alors vous nous proposez une solution pour faire nous-mêmes notre propre shampoing. Vous travaillez sur ce projet depuis 2 ans et vous avez osé créer votre start-up autour du shampoing en 2019 grâce à une campagne sur Ulule, cette plateforme de financement participatif qui a très très bien marché. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Donc on est tous intéressés par ce qu'il y a dans nos shampoings. Et là, je ne vais pas vous parler d'applications pour scanner et connaître la composition, mais plutôt de savoir quels sont les ingrédients réels qu'il y a dedans. Derrière ces noms étranges, à moitié en latin, à moitié en anglais, comme du Vinis vitifera leaf extract, on se demande ce que ça veut dire. Et avec nos produits, des shampoings naturels en kit, on vous aide à le découvrir. Vous avez en fait dans chaque kit toutes les matières premières nécessaires à formuler vos propres shampoings. Vous avez différentes fioles dédiées. Vous les mélangez et ça vous donne un soin à 95% d'origine naturelle. Donc des actifs qui vont activer le shampoing au moment du mélange. Ils sont faits en France avec des packagings qui sont recyclables. Ils sont sans sulfate, sans silicone. Chaque kit coûte 25€ sur notre site internet. Et la promesse qu'on a avec nos shampoings en kit, c'est d'additionner l'essentiel et de soustraire le superflu.
Et bien déjà ça c'est un pitch très réussi, mais alors effectivement vous avez eu la gentillesse pour qu'on comprenne bien de nous amener le kit. Il y a donc la base du shampoing dans une grande bouteille, il y a 3 fioles, mais à chaque fois on doit mettre les 3 fioles ou on choisit chacune des fioles pour créer notre shampoing par ailleurs personnalisé?
Alors on va avoir en fait 3 shampoings différents avec des objectifs différents selon que vous ayez les cheveux secs, les cheveux gras. On a aussi un shampoing anti-pollution pour les gens qui habitent en zone urbaine. Et chacun des actifs va apporter une spécificité au produit. Donc sur le shampoing anti-pollution, par exemple, on va avoir du thé vert qui va avoir un effet antioxydant et va aider à enlever les aspects de la pollution.
Alors, juste avant d'écouter Nathalie Carré, notre fée qui analyse chaque jour, chaque dossier présenté au Trophée Europe 1 La France bouge, pourquoi Arithmétique? Quel rapport avec le shampoing?
Comme je vous le disais, notre but, c'est d'additionner l'essentiel, donc à savoir des produits naturels, et d'enlever le superflu, les sulfates, les silicones, les parabènes, tout ce qu'on peut connaître de peu nocif dans la cosmétique.
Mais c'est compliqué de faire le lien avec le shampoing. Moi, quand vous dites arithmétique, je crois que vous allez me donner des cours de maths.
Je vous l'accorde. Et il y a finalement aussi cet aspect de facilité, un aspect scientifique qui semble inaccessible. La chimie des cosmétiques, on n'a pas du tout les clés en main pour résoudre ces problèmes-là. Alors que l'arithmétique, une simple addition, finalement, c'est à la portée de tous.
Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth, bonjour Maxime, bonjour.
Vous allez bien?
Bonjour, bonjour.
Oh ben ça va bien.
Bon, alors vous avez épluché attentivement le dossier d'arithmétique, le dossier de Maxime Laplancha. Les forces et les faiblesses?
Oui, alors les forces, évidemment, vous êtes sur un marché en croissance. On est à 8 Français sur 10 qui sont adeptes du faire soi-même. Le site qui est vraiment, vraiment très, très bien détaillé, qui explique tous les produits en toute transparence. Et avec, alors là, c'est assez génial, effectivement, l'explication de chaque ingrédient, de chaque terme qu'on ne comprend donc pas en général, avec l'avantage de chaque ingrédient. Et puis, vous avez un questionnaire pour en savoir plus sur la nature de nos cheveux, donc qui est aussi très bien fait. Quelques points améliorés. Alors, un petit détail, mais sur le questionnaire, il faut laisser son email pour avoir le résultat. Ça crispe souvent les internautes. Peut-être plutôt leur donner le résultat et leur demander leur email pour recevoir leur cadeau, puisque vous proposez aussi un cadeau si on répond au questionnaire. Le packaging, il y a beaucoup de contenants qui restent, se recyclent, mais peut-être étudier la possibilité de recharge ou de contenants plus grands pour commander moins souvent pour la partie écologique. Et puis, le dernier point amélioré, c'est le prix. Vos produits ne sont pas bio. Vous êtes 2 à 3 fois plus cher que les shampoings bio et au moins 4 fois plus cher qu'un do-it-yourself à la maison. Mais avec des compositions qui restent, malgré tout, j'ai essayé de comparer, c'est pas simple, mais assez similaires aux shampoings bio. Donc, il faut vraiment donner des arguments qui justifient cette différence de prix si vous voulez élargir votre clientèle.
Alors, c'est très intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. C'est vrai, pourquoi 25€ les 230 millilitres?
En fait, tout simplement parce que sur notre processus de formulation, enfin de recherche et développement, on a voulu se comparer plutôt au shampoing que vous allez trouver chez un coiffeur. avec des niveaux d'exigence en termes de qualité très élevés. On n'est pas du tout sur quelque chose que vous allez trouver en supermarché. Et là, par contre, en termes de prix, on est beaucoup plus aligné avec ces produits-là.
Géraldine Autier-Faillon, directrice générale de Guy de Graines, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous avez eu votre petite kit, vous aussi ? Je vois que vous l'avez regardée pendant la présentation du pitch de Maxime.
Oui, on a échangé rapidement. Déjà, je trouve ça très intéressant. Et puis, ça rejoint aussi une petite initiative que nous soutenons chez De Graines. On a choisi d'accompagner une start-up qui s'appelle Beauty Mix, qui est sur la tendance, justement, de la formulation maison. Et on les accompagne notamment sur la possibilité de réaliser les produits d'entretien de la maison dans une cuve qui est faite chez De Graines.
Si vous aviez un petit conseil à lui donner, ce serait lequel ?
Alors, j'ai entendu les conseils, ils sont vraiment
ah bah ça,
très
c'est
bons.
Nathalie Carré.
Voilà, c'est extraordinaire. Je pense que les premiers retours clients sont les plus précieux. C'est ça aussi qui est important. Et puis, effectivement, beaucoup d'intervenants aujourd'hui sûrement sur cet univers réussir à se faire un nom très vite, à se positionner, c'est la clé. Mais je pense que l'énergie est admirable.
Maxime, la suite, c'est quoi ?
La suite, c'est développer un petit peu le réseau de distribution.
Il est où là, le réseau ?
Actuellement, il est complètement en ligne. Demain, on aimerait être disponible dans des enseignes physiques.
Justement, pour vous, le marché, c'est du coup d'être présent, j'imagine, chez les coiffeurs indépendants qui n'ont pas de propre marque de shampoing à vendre, j'imagine.
Absolument,
en tout cas.
Absolument, et pour rejoindre aussi les tendances de consommation plus naturelle de produits qui ont l'habitude d'être assez chimiques.
En tout cas, ça s'appelle arithmétique. Merci à vous, Maxime Laplanchard. C'est une solution pour faire soi-même son shampoing. Merci à vous et donnez-nous de vos nouvelles.
Bien et sûr, si vous merci. Avez envie, vous aussi, de venir pitcher, comme on dit dans La France Bouge, eh bien, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer un mail à e1-lafrancebouge@europe1.fr. On lit tout, mais attention, on ne sélectionne pas tout.
Et merci à Nathalie Carré. On vous retrouve demain, Nathalie, pour un prochain pitch.
Géraldine Autier-Faillon, directrice générale de Guy de Graines, vous restez avec nous, suite et fin de notre émission.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Déjà, ça va toujours trop vite. En même temps, aujourd'hui, il faut peut-être qu'on se presse un peu plus que d'habitude. Il faut que nous aussi, on aille préparer à 6, paraît-il, le réveillon de Noël. Mais bon, allez, on le prépare en tout cas nombreux, tous ensemble, aujourd'hui sur Europe 1, avec Géraldine Autier-Faillon, la directrice générale de Guy de Graines.
Et c'est parti pour demain au travail, avec vous Benoît Serre. Bonjour Benoît.
Bonjour Emmanuel, bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de l'association des DRH. Alors tiens, avec vous aujourd'hui, on va se projeter un petit peu sur 2021. 2021 dans le monde du travail. Et qui dit travail dit locaux. Quel est l'avenir de nos bureaux, Benoît ?
Alors déjà, est-ce qu'on va pouvoir y retourner en 2021 ?
C'est la grande question. La ministre du Travail a été claire. Pour rester en télétravail au moins jusqu'à mi-janvier.
Le plus possible.
Ouais. Je pense même que ce sera au-delà de mi-janvier. Mais on verra. En attendant, les gens souhaitent revenir. C'est la première bonne nouvelle. Mais l'autre point, c'est qu'ils ne souhaitent pas revenir dans n'importe quelles conditions. Et alors évidemment, on va parler du télétravail, mais pas que. C'est-à-dire que je crois que pendant cette période, et beaucoup d'entreprises ont déjà commencé à travailler sur le sujet, il y a eu une redéfinition du bureau. C'est-à-dire que vous avez vu que les fameux open space ont définitivement été condamnés, que le télétravail, c'est aussi faire venir des gens au bureau pour y faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire chez eux.
Alors c'est quoi ?
Et donc, c'est-à-dire travailler ensemble, c'est-à-dire la collaboration. Autrement dit, le bureau va redevenir enfin un lieu doit redevenir plus fortement un lieu de collaboration, d'innovation collective et donc de convivialité.
Et l'idée, c'est de nous faire finalement venir au bureau quand c'est utile.
Exactement, parce que si vous venez au bureau pour vous enfermer après 3 heures de transport pour y faire quelque chose que vous pouvez faire de chez vous, vous n'avez pas bien intérêt quand même. Par conséquent, beaucoup d'entreprises commencent à travailler à ça. Ça, c'est un premier point.
Donc ça veut dire que s'ils commencent à travailler là-dessus, ça veut dire qu'ils pensent à réduire, par exemple, les espaces de travail ?
En fait, la conséquence, c'est la réduction des espaces de travail. Mais la cause, c'est repenser mon bureau. C'est repenser comment j'accueille mes collaborateurs, parce que c'est un lieu de socialisation. Vous savez, on n'a pas arrêté de dire que le télétravail, dans cette deuxième phase, était moins adopté par les gens qui voulaient retourner pour retrouver l'interaction sociale du bureau. Eh bien, les locaux de bureau doivent montrer l'interaction sociale et le modèle de management plus en confiance et en autonomie. Victor Hugo disait que la forme, c'est le fond qui se voit, et ben c'est pareil pour les bureaux.
Mais c'est vrai qu'Elisabeth a quand même raison sur le fait de réduire les espaces. On avait reçu ici à La France Bouge le patron de la marque Peugeot qui nous avait dit, nous, on a fermé notre siège social de Rueil-Malmaison en banlieue parisienne au début du confinement. On ne l'a jamais rouvert, on n'y retournera jamais.
Oui, alors effectivement, parce que PSA est une entreprise qui est particulièrement avancée sur ces sujets, puisque vous savez qu'ils sont en paperless depuis longtemps, c'est-à-dire le
c'est
fait de ne pas utiliser de papier.
Ah oui.
Pas utiliser de papier. Depuis longtemps, et qu'ils ont une approche du télétravail qui est extrêmement ambitieuse, une des plus ambitieuses que je connaisse d'ailleurs, puisqu'ils veulent faire passer tout le monde à 4 jours, voire 4 jours et demi, ce qui est énorme. Et donc effectivement, ça a conduit à réduire les bureaux, mais ça n'a pas été fait que pour cela en fait. Mais c'est la conséquence, ils ont fermé Rueil pour répartir les gens entre Vélizy et Poissy, effectivement.
Mais de ce que j'entends, de ce que vous dites, parce que vous avez raison, il y a une aspiration d'un grand nombre de collaborateurs à retourner un peu au travail et avoir 2-3 jours de télétravail à leur convenance. Malgré tout, ça ne peut que bien se passer quand l'objectif commun est partagé par la direction, par l'entreprise et par le salarié. Si on prend par exemple l'exemple de PSA, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient là-dessus.
Oui, alors effectivement, là vous avez raison, c'est que les bureaux, ça fait partie de la culture d'entreprise en fait. Mmh. Et par conséquent, c'est pas la chose que vous déclinez, vous déclenchez comme ça du jour au lendemain. C'est un sujet de dialogue social, d'explication, parce que vous avez des gens qui sont très sensibles à la taille du bureau. Vous savez, on est en France quand même, hein, donc la taille du bureau...
Ah, de la taille du bureau et du fait d'avoir un bureau dépend souvent l'importance que l'on a dans l'entreprise.
C'est des sujets majeurs, donc vous avez un phénomène culturel autour du bureau, mais c'est en train de s'améliorer parce que la nouvelle génération y est nettement moins sensible que les générations précédentes. Puis après, il y a des choses, des initiatives très intéressantes, je trouve en tout cas, c'est le fameux coworking, donc c'est pas forcément aller au bureau, c'est pas forcément travailler chez moi, c'est travailler près de chez moi. Et vous avez peut-être vu l'initiative du groupe Accor,
ouais, qui veut changer
une
hôtels.
Partie de ses hôtels. Il veut transformer une partie de ses hôtels en espace de coworking, et vu l'implantation qu'ils ont, ça permet à des gens de travailler non pas de chez eux, parce que peut-être qu'ils ne le peuvent pas pour des raisons de confort personnel, mais pas forcément de faire 1h30 de RER.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va obliger à repenser complètement comment nos bureaux vont être faits. On parlait tout à l'heure de convivialité, mais je crois que très récemment, la Pernod Ricard a obtenu un des prix des meilleurs bureaux dans leur siège, parce qu'ils ont complètement repensé l'espace. Le patron n'a plus de bureau, plus personne n'a de bureau, et on s'installe un peu où on veut. Et le patron de Pernod Ricard raconte même qu'ils ont repensé les couloirs. Ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus faciles d'accès, parce qu'ils se sont rendu compte que l'endroit où on se parle le plus, c'est dans un couloir.
Exactement, et vous avez une autre entreprise qui est la MGEN qui est en train de repenser ses bureaux et notamment de faire tomber les murs parce que c'est comme ça que les gens se parlent et le couloir devient le bureau. Mmh. Et donc c'est des lieux de convivialité incroyables. Alors il faut y penser aussi, les flex-office, c'est ce que vous décrivez, il faut aussi que ça s'organise parce que c'est assez amusant un flex-office, hein, parce que les gens s'envoient des SMS la veille en disant t'arrives à quelle heure demain, parce qu'ils se font des petits groupes. Donc ça perturbe le management, mais ça le fait bouger. Donc je trouve que c'est une des bonnes révolutions de cette crise.
Géraldine Autier-Fayon, vous en tant que directrice générale de Guy de Graines, comment vous allez organiser vos bureaux et la façon de travailler en 2021 ?
Alors il y a le travail de bureau chez de Graines et puis il y a le travail de production. Donc c'est vrai que le télétravail, quand on a besoin de travailler sur une presse de 1000 tonnes, c'est compliqué. On ne la transporte pas dans son salon.
A priori.
En revanche, c'est vrai, on le ressent beaucoup au niveau du second confinement. Les gens ont envie de se retrouver. Nous, on fait des métiers qui sont des métiers tactiles. On touche les produits, on les sent. On parlait tout à l'heure de lancement de nouveaux produits. On a beau échanger des photos, c'est pas pareil.
Il faut se parler, il faut se confronter à ses idées.
Il faut voir un peu les choses. Donc, ce sont des rendez-vous. Que l'on va prendre par équipe, par petite équipe. Et puis, je dois
donc
dire que ça se passe bien.
Vous allez totalement dans cette idée. On vient au bureau quand c'est utile. On vient au bureau pour faire du...
On n'est pas là pour pointer.
Ouais,
on n'est pas là pour pointer. Benoît Serre, quel sera le rôle des locaux et des bureaux alors à l'avenir ? C'est quoi le bureau de demain ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Le bureau de demain, je pense que ce sera essentiellement un lieu où les gens vont ressentir le fait que l'entreprise est un projet commun et que quelquefois, il faut travailler ensemble pour le faire. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, ce sera plus fortement... Vous savez, on a beaucoup parlé, il y a quelques années encore, du fameux fun au bureau. Les locaux de bureau doivent répondre à cet objectif-là.
C'est quoi le fun au bureau ?
Que ce soit sympa.
C'est amusant, d'accord.
Voilà, alors j'attendais ça de la part d'Emmanuel. C'est pas forcément le ping-pong et le baby-foot. C'est un système de management qui fait qu'à un moment ou un autre, le ping-pong ou le baby-foot a du sens. Donc faut faire ça dans le bon sens, faut pas faire ça dans le mauvais.
Bah, nous, on avait un baby-foot, là, on n'a plus le droit à cause des règles sanitaires, mais on avait un baby-foot à Europe.
On est à plus d'un mètre dans un. Ah non,
pas quand vous êtes à côté.
Il n'y a plus que le ping-pong.
Quand
alors.
On joue à quatre. Merci en tout cas, merci à vous, Benoît Serre. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association nationale des DRH. Et on vous retrouve demain, vendredi. Merci à vous aussi, Géraldine Autier-Fayon. Merci d'avoir été pendant une heure avec nous dans La France Bouge.
Merci à vous de m'avoir accueillie.
Et on se retrouve donc demain, on parlera de quoi Elisabeth?
Eh bien demain, 25 décembre, on va manger du chocolat demain et ça tombe bien parce que nous serons avec le patron de la maison du chocolat.
Ne mangez donc pas trop ce soir si vous avez encore besoin de manger avec nous demain. Tout de suite, le flash suivi de Christophe Ondelat. Europe 1.